Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais meilleur buteur déjà. Allez, décide. Comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Il est 23h03, Walid Acharchour est là. Il y a eu tout à l'heure 2 heures de Ligue 1 dans l'after entre 20h et 22h. Timothée Mémon et Florent Gautreau et Jonathan McCarthy ont essayé de parler d'à peu près tous les clubs, pour Mercato notamment. Et là, bah, on est passé à l'international. On a fait Nord d'Angleterre et maintenant, c'est l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que la Bundesliga reprend demain. Polo Breitner est de retour. Salut Polo.
Super, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Bon, alors évidemment, l'actu est dense. On va passer tout ça en revue. Parler évidemment du Bayern, de Dortmund et des autres, de ceux qui reviennent également, Schalke, le Werder. Bref, il y a pas mal d'actualités à passer en revue avec toi. Et puis le 32-16 est ouvert, supporters de Bundesliga ou des clubs allemands. C'est maintenant ou jamais. Bon, on va démarrer par le Bayern. Parce que comme d'habitude, il y a toujours eu des petits déclats... quelques analyses typiquement bavaroises. Ah oui, alors d'ailleurs, Rummenigge a dit que selon lui, Sadio Mané ne faisait pas partie du top des attaquants. Au Sénégal, je pense que Rummenigge, là, faut pas qu'il y ait des vacances là-bas.
Hein, ça, c'est un gros fake.
Ça va mal se passer.
Ça, c'est un gros fake, ce que je viens de dire, parce que c'est pas Rummenigge, c'est le frère, Michael Rummenigge.
Moi, j'ai reçu des messages de journalistes sénégalais, ils n'ont pas compris que c'était pas le bon Rummenigge.
Non, mais déjà, mon cher Gilbert, et là, je vais être très sérieux 10 secondes, comme ça, je vais pouvoir commencer à mettre mon premier carton jaune cette saison. Quand je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se disent journalistes, qui passent leur temps à dire que Karl-Heinz Rummenigge a dit ça sur Mané et De Ligt, je crois qu'ils devraient vérifier un petit peu leurs sources et savoir ce que c'est. Là, ça devient un peu grave quand même, quoi, de sortir ce genre d'informations. C'est repris un peu partout dans le monde. Alors, Karl-Heinz Rummenigge aurait très bien pu sortir ce genre de phrase, parce que depuis qu'il est plus président du Bayern, il passe sa vie tous les mois tellement il doit s'enquiquiner, il passe son temps à faire des déclarations partout, notamment pour balancer sur l'actuel Bayern et la nouvelle présidence de Leverkusen. Mais dans le cas présent, c'est son frère, Michael Rummenigge. Donc, il y a beaucoup de personnes apparemment qui ne le connaissent pas, qui était une légende du Bayern, mais aussi du Borussia Dortmund, qui a été capitaine, il a été international allemand aussi, et il a été forcé d'arrêter sa carrière à cause d'un problème au genou de mémoire. Donc voilà, donc c'est donc ça, si tu veux, Michael Rummenigge, ça fait partie des anciens stars du football allemand, des anciennes stars du football allemand qu'on interview tous les trimestres pour dire ce qu'ils pensent de X, Y, Z. C'est un peu jacadi, tu vois, donc il a dit ça. Pourquoi est-ce qu'il a sorti ça à ce moment-là? On n'en sait rien. Ce que je peux vous assurer, c'est un peu comme Lothar Matthäus, entre ce qu'il va dire l'inverse de ce qu'il dit le lundi. Ouais. Donc, ça fait partie de ces choses. Je peux t'assurer qu'en Allemagne, on en parle relativement peu, parce que c'est pas si important finalement. Et des personnes qui s'expriment évidemment sur le cas du Sénégalais et sur le cas du Néerlandais, d'ailleurs, je pense que le cas du Néerlandais est plus intéressant parce qu'on nous le présente comme une superstar en défense et tout ça. Moi, je parle sous le contrôle de Johan, évidemment, en Italie. Je suis pas persuadé que son passage à la Juve soit si formidable que ça. Pour en faire un grand, grand défenseur, on va attendre un petit peu et on va voir ce qu'il a fait. Parce que, par exemple, lorsqu'il est rentré en jeu lors de la Supercoupe d'Allemagne contre Leipzig, ça a été assez dramatique. Donc, on va attendre un petit peu, on va se calmer.
Bon, voilà. est-ce que maintenant qu'on a évacué cette histoire, est-ce que le Bayern est malgré tout de même encore et comme toujours le grand favori, ou
alors,
est-ce que cette année
il y a deux écoles il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent le Bayern est l'équipe la plus forte, et sur le papier, évidemment, c'est l'équipe la plus forte d'Allemagne. Et il y a ceux qui disent, ben ouais, mais ça, sauf qu'ils sont champions depuis 10 ans, il y a bien un moment où ça va s'arrêter.
Oui.
Le problème, et là, on va parler d'un ancien qui est aujourd'hui.
Qui est à la place?
Ah bah il y en a trois, c'est Leipzig, c'est Dortmund et Leverkusen. C'est pas compliqué. Et puis il y a un gros outsider, mais je pense plus pour une nouvelle qualification en Ligue des Champions, mais cette fois via le championnat, c'est Francfort qui a fait un recrutement très intéressant et très malin surtout. Le Bayern, si tu veux, il y a quelque chose qu'on oublie, mais Lewandowski n'est plus là. Ça veut dire ça a l'air de rien. Donc, parce que tout le monde parle évidemment de Sadio Mané, mais Lewandowski n'est plus là. Et c'est quand même quelqu'un qui te plante 30 pions par saison quand c'est pas plus. Donc, ça veut dire que le nouveau recrutement, ce que propose Nagelsmann, ça va être une équipe beaucoup plus malléable, beaucoup plus variable. Je ne serais pas surpris que d'ici la fin du mercato estival, un nouveau neuf arrive quand même, parce que l'histoire du faux neuf, si tu veux, ça, avec Sadio Mané, etc., même s'il y a une énorme concurrence au milieu de terrain et en attaque, ça, c'est un peu délicat quand même. Moi, je connais pas de grande équipe sans neuf, quoi. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être falloir recruter quand même quelqu'un de très important devant, ou au moins quelqu'un qui puisse jouer pour qu'on puisse faire se reposer.
Gnabry peut pas jouer dans ce poste-là.
C'est pareil, c'est un faux neuf, c'est pas un vrai. Ouais. C'est pas un vrai. Donc, est-ce qu'il va? Moi, encore une fois, je pense que Nagelsmann va mettre en place exactement. Alors là, en Super Coupe d'Allemagne, il a joué avec Sadio Mané devant. Gnabry était sur la droite. Mais si tu veux, on pense qu'il y a encore un neuf qui va débarquer. Qui? On n'en sait pas trop. Il y a beaucoup de monde qui circule. Harry Kane, on va arrêter tout de suite. C'est beaucoup trop cher. En tout cas, cette saison, sauf si le Bayern nous fait un coup de Trafalgar et nous sort l'argent. Parce qu'en fait, quand on analyse les transferts qui ont eu lieu cet été, ce qui est très intéressant, c'est que le Bayern en fait de la comptabilité en ce moment, parce que comme pour tous les clubs européens et en particulier les clubs allemands, on a beaucoup souffert de la pandémie. Il n'y a pas de milliardaires comme ça qui donnent de l'argent en Allemagne. Et donc, il faut reconstituer les fonds. Et si tu veux, on a vendu beaucoup de jeunes. Je vous avais parlé de cette équipe du Bayern Réserve qui avait été championne à la surprise générale en 3e division, donc professionnelle aussi, en 2019-2020. Et ben, on les a fait partir pour 10-12 millions, ces jeunes-là. Et donc, ça permet de faire des écritures comptables et donc d'avoir un petit peu de liquidité. C'est ce qui va se passer. Je pense encore une fois qu'un neuf va arriver. Je suis pas sûr, par contre, que Konrad Leimer, l'Autrichien, débarque au Bayern Munich, parce que Sabitzer est toujours là, parce que Gravenberg est arrivé. Mais c'est un Bayern, si tu veux, où si tu écoutes par exemple Domenico Tedesco, donc le coach de Leipzig, il te dit que ce Bayern 2022-2023 est plus fort sans Lewandowski qu'avec Lewandowski, parce qu'il est beaucoup plus variable et on peut attaquer de différentes façons avec une concurrence énorme. On va citer les noms un petit peu tout à l'heure. Et tu as ceux qui disent, bah oui, mais quand même, le duo Lewandowski-Müller, on savait ce que ça valait sur le terrain. Maintenant, Lewandowski n'est pas là, donc quid de Müller?
Moi, je suis plutôt sur la deuxième option.
C'est vrai que c'est assez excitant, parce qu'il n'y a pas que Tedesco, mais Nagelsmann l'a aussi fait comprendre en conférence de presse, en disant que cette illisibilité, cette variété dans les courses, notamment avec Kingsley Coman, Sané, Mané, Gnabry, un Moussiala, quand on voit le match qu'il a fait, notamment contre Leipzig, toutes ces courses-là, tu peux rajouter même un Goretzka au milieu de terrain quand il va revenir, tu te dis que défensivement, pour l'équipe adverse, ça peut être beaucoup plus compliqué par rapport à Lewandowski, qui était un joueur extraordinaire, mais qui était un joueur de surface avant tout, et avec les nombres de courses maintenant, il va falloir les travailler, il va falloir avoir du temps, et puis il va falloir être aussi clinique devant le but, parce que les 40 pions de Lewandowski, il va falloir les remplacer, même s'ils ont les joueurs pour. Mais c'est vrai que c'est assez excitant de voir ce qui va se passer sans Lewandowski, parce qu'on s'est mangé quoi, ça fait, il est resté quoi, 7 ans,
c'est ça, ouais.
Ouais. Donc c'est vrai que c'est,
si on compte avec ouais, le Borussia Dortmund,
c'est une question assez excitante. Mais il y a un énorme potentiel quand on voit les 60 premières minutes, bon, même si ça s'est gâté un petit peu ensuite contre Leipzig, offensivement, quand tu vois le matos, le matériel, ça reste quand même du très très haut niveau.
Alors, ce qui va être super intéressant, alors là, pareil, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, attendez, regardez le calendrier. Le calendrier, il est terrible à cause de la Coupe du Monde, ou grâce à la Coupe du Monde, comme on veut. On aura donc 15 matchs à jouer, plus les matchs de Ligue des Champions, plus la Super Coupe, plus les Coupes d'Allemagne, etc. Donc, on va avoir besoin de tout le monde. Ce qui est très intéressant, et ce qu'a dit Walid, c'est qu'il y a un jeune qui a marqué les esprits lors de la Super Coupe d'Allemagne, c'est Moussiala. Oh, 19 ans, il est monstrueux, en 1 contre 1, il élimine n'importe qui, etc. Et donc, va se poser très rapidement la concurrence avec Thomas Müller, qui lui est le trentenaire. Et donc, ça va être compliqué. Parce que Kingsley Coman, logiquement, s'il n'est pas blessé et qu'il est en forme, il est titulaire indiscutable. Gnabry, on va dire côté droit. Mané, si tu le mets devant. Moussiala, qu'est-ce que tu en fais? Tu le mets en véritable meneur de jeu numéro 10 à la place de Thomas Müller ou pas? Qu'est-ce que tu fais de... Et puis il y a Leroy Sané.
Ouais,
imaginons que Leroy Sané revienne à son niveau. Ça va, ce qui est pas sûr au passage, hein, on verra bien. Ça va être extraordinaire. Il y a des joueurs comme ça, rien qu'à ce niveau-là, il va falloir trouver. Et si tu vas chercher un vrai neuf, ça va être assez impressionnant. Maintenant, la contrepartie de ça, c'est que défensivement, même si De Ligt est arrivé, Upamecano, il doit absolument progresser lors de la deuxième saison. Hernandez, évidemment, c'est du sérieux, mais c'est pour moi pas un grand défenseur comme on le voudrait en Allemagne. Il va y avoir évidemment les latéraux. Est-ce qu'on va jouer en défense à 4, défense à 3? Tout ça va être Goretzka, tu l'as cité, Walid, né absent encore, et ça risque de durer un bout de temps. Est-ce que ça va être Zabitzer? Est-ce que ça va être Gravenberg? Est-ce que ça va être une autre personne? Ça va être super intéressant à suivre. Ce qui est sûr, c'est que lorsque tu écoutes les entraîneurs allemands, en gros, ils disent que le Bayern est le favori. Mais il y a quand même beaucoup d'inquiétude dans le sens où c'est l'année, la première année sans Lewandowski et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Or, le Bayern reste aussi sur deux éliminations en quart de finale de Ligue des Champions lors des deux dernières saisons. Et ça, ce n'est plus acceptable lorsque tu lis rien que la presse allemande. C'est-à-dire qu'il y a là, ils doivent... Parce que, encore une fois, tu règles le problème Lewandowski. D'ailleurs, très très intéressant, les amis. Comment Lewandowski... On n'en parle plus, Lewandowski, c'est fini. La façon dont Lewandowski a été éliminé du football allemand est extraordinaire parce que c'est une légende quand même, faut pas l'oublier. Il y a un titre extraordinaire, je sais plus si c'est la Süddeutsche ou Kicker, qui dit une légende s'en va sans émotion. Au revoir. Le jour où il y a eu le transfert qui a été officialisé au Bayern, je crois que c'est là où le Bayern a annoncé la prolongation de contrat de Gnabry, où on annonçait l'arrivée d'un autre joueur, que Sadio Mané c'était quasiment réglé. C'est-à-dire qu'on l'a oublié. C'est fini. Au revoir. T'as voulu jouer, entre guillemets, au con avec le Bayern. Au revoir, tu n'existes plus.
C'est froid. C'est quand même un truc. Froid. L'image du Bayern sur le terrain, c'est assez froid et glacial, quoi. C'est assez
clinique. Oui, enfin, le Bayern, ça peut être chaud aussi. C'est-à-dire que là, Lewandowski, il a quand même cherché, les gars.
Oui, il a un peu cherché, quoi. Bah, il a fait des déclarations. Encore ce week-end, il y avait une émission que je vous parle souvent qui reprenait aussi la fameuse émission Doppelpass. Il y avait Herbert Heiner, donc le président de l'association, donc qui chapeaute le Bayern Munich, qui était interviewé. Il dit, mais attendez, mais c'est pas nous qui avons fait les déclarations à la presse. Qui c'est qui a mis le feu partout? C'est Lewandowski qui a mis le feu partout. À tort ou à raison, si on veut, hein. Tout le monde sait que c'est des histoires de contrat, etc. Il y avait des problèmes de communication, on va dire ça comme ça, entre Nagelsmann et Lewandowski, parce que Nagelsmann veut des joueurs beaucoup plus polyvalents, etc. Évidemment, vu la stature de Lewandowski et le fait qu'il est plus tout jeune non plus, c'est pas évident, c'est plus un junior, donc c'est délicat toutes ces choses-là, mais le fait est que celui qui a mis le feu aux poudres un peu partout, c'est Lewandowski. Il a pas arrêté. Pendant un mois, il a fait des déclarations. Oui.
Il y a un truc quand même. Ils ont quand même fait un recrutement très international. Là. D'habitude, ils vont chercher les meilleurs de Bundesliga en affaiblissant les autres et tout. Ils l'ont pas trop fait cette année. Là.
Ils ont été prendre deux joueurs de l'Ajax, un de la Juventus et un de Liverpool.
Tu vois ce que tu dis, il manque un œuf, peut-être qu'il faut regarder dans un autre club allemand, mais là, je ne sais pas, changement de stratégie ou...
Non, alors les Néerlandais, il y en a toujours eu, hein, ça, c'est toujours un peu, il y a une filière, pas forcément qu'au Bayern d'ailleurs. Non, le recrutement, il a été très très intéressant. De Ligt, bon, moi, mettre, je sais plus, 67 millions hors bonus sur un défenseur central, ça me rappelle les 80 millions de Lucas Hernandez, donc je trouve ça, c'est toujours comptablement parlant, difficile à absorber. Mané à 30 ans, évidemment, est financé par le départ de Lewandowski. Il y a le petit L, là, bon, moi, je ne vais pas le juger à 17 ans, évidemment, qui est très intéressant. Gravenberg, on l'annonce comme le nouveau Pogba, on espère même qu'il sera meilleur que lui.
Ça a été vécu comment, Mathis Tell, très rapidement, Polo, parce qu'on en a beaucoup parlé ici, mais on n'a pas eu ton avis ce qui circulait en Allemagne.
Il faut faire très attention au Bayern lorsque tu achètes des jeunes. Parce que moi, des jeunes, si tu veux, il faudrait faire un cimetière après, à côté de l'Allianz Arena, pour voir tous ces jeunes qui sont arrivés à Bayern, qu'on nous a annoncés comme des futurs superstars, etc. Et il est rempli, le cimetière. Donc, si tu veux, quand tu achètes au Bayern un joueur de 17 ans, tu sais que, sauf cas particulier, il va jouer très, très peu. Donc, ça se trouve, il va être, et d'ailleurs, il faudrait qu'on parle un peu de Tanguy Nyonzou, parce que ça commence à devenir compliqué.
Même quand tu mets 30 millions, il va pas avoir ses minutes?
Ah ben peut-être un petit peu, mais c'est pas sûr qu'à 17 ans il jouera pas les matchs importants.
Oui, ça,
ou
oui.
Alors il faudra avoir 10 points d'avance en championnat et puis encore on vient d'évoquer la concurrence devant. Moi ça va être très très difficile pour lui. Il est plus déjà la première année, il va sûrement jouer relativement peu et juste s'imprégner de la culture bavaroise. Ça c'est et puis maintenant Nagelsmann, il aime bien les jeunes aussi. Donc c'est mais bon, il faudrait vraiment que tu vois que ce soit la star qui à 18 ans expose tout pour prendre la place.
Moussiala, il a eu ses minutes sur les deux dernières années quand même.
Il... Il
a...
Il les a eus, mais il l'a prouvé surtout. Oui. Il l'a prouvé en équipe d'Allemagne, même s'il n'est pas titulaire. Et Moussiala, tu vois, c'est ça, ça, c'est la culture bavaroise. Ce qui est très bien avec le, j'ai envie de dire, le nouveau football allemand depuis le début des années 2000, c'est que les jeunes, on les lance, et s'ils sont meilleurs que les anciens, on continue. Sauf que tu gagnes pas une Ligue des Champions avec un gamin de 17 ans, avec Moussiala à 19 ans. Mmh. Ça me semble plus compliqué. Mmh. Maintenant, ça peut être, c'est l'avenir, en fait. Ils ont un, quand t'achètes un gamin aujourd'hui de 17 ans à 20 ans, c'est pour qu'il soit là pendant plusieurs années, et qu'on arrive à, là, au bout d'un moment, à en faire, devenir un grand attaquant. Mais on verra bien comment il va évoluer, comment il va se sentir en Bavière aussi, hein, parce que ça fait partie des choses. Donc voilà, moi, je suis, assez impressionné par le recrutement bavarois, très, qui a souvent été critiqué ces dernières saisons, même s'il a été fait très très tôt. Sadio Mané, c'est un très beau coup, je trouve. Mmh. La question, c'est est-ce qu'on le fait jouer en neuf ou est-ce qu'on le fait jouer sur les côtés? Est-ce qu'à 30 ans, il peut encore jouer sur les côtés comme il faisait il y a quelques années? J'en suis pas persuadé. Mais moi, j'aimerais bien quand même, honnêtement, qu'ils aient cherché un vrai neuf au cas où.
Après, c'est difficile de faire mieux. En plus, ils ont eu, bon, hormis De Ligt, mais je pense que c'était pour moi indispensable de recruter, surtout après le départ de Süle à Dortmund, et de prendre un mec jeune de 22 ans qui, sur les 5-6 prochaines années, peut s'imprégner de cette culture-là et te faire vraiment... de ramener une vraie plus-value, parce que moi l'année dernière j'avais trouvé qu'individuellement, dans le style de jeu que Nagelsmann voulait jouer, notamment très très haut sur le terrain, qu'en individuel ils avaient perdu par rapport au départ de Boateng et d'Alaba. Et je pense que même si ça va peut-être prendre du temps avec De Ligt, je pense que aujourd'hui sur le marché c'était très très dur d'avoir mieux. Il y a le petit Mazraoui, je pense que encore une fois c'est un step up par rapport à Pavard. Je pense que Gravenberch à 15 millions d'euros, c'est une très très belle affaire.
Step up ou glow up?
Les deux, ça termine en up, donc ça c'est validé. Ouais, hein. Et derrière, devant, tu l'as dit avec Sadio Mané, il faudra voir par rapport au poste de numéro 9, mais moi je pense que quand on parle de favoris, je pense qu'en championnat, le Bayern Munich aura aucun problème, parce que même au-delà du Bayern, moi c'est plutôt les concurrents, et on l'a encore vu avec Leipzig sur la première heure. Pour moi, il y a un complexe d'infériorité quand il joue le Bayern, et les dix titres, ils sont dans la tête des concurrents, et même avec un Lewandowski qui est parti, je pense que ça suffira. Après, pour le Bayern, moi je les attends en Ligue des Champions, parce que l'année dernière j'ai quand même été déçu contre Villarreal, et ça va être là pour moi l'un des juges de paix de Nagelsmann par rapport à sa progression.
C'est en fait les conséquences du fait que le Bayern a gagné contre Lewandowski, parce que le Bayern finalement avait acheté Lewandowski pour zéro, rappelons-le quand même, il était venu gratuitement du Borussia Dortmund, et ils ont fait une plus légère plus-value en vendant un joueur qui est plus que trentenaire. Ah, oui. Et donc ils ont gagné parce qu'ils ont eu le prix qu'ils voulaient. Mais maintenant, c'est ce qu'on dit en Allemagne, c'est ok, vous avez gagné, mais maintenant Nagelsmann, ok, s'entendait pas avec Lewandowski, très bien, c'est réglé, mais c'est à Nagelsmann de prouver maintenant.
Qui nous montre.
Voilà, c'est ça.
Sadio Mané a quand même réussi à faire embaucher son pote par le Bayern. Le gars avec qui il était formé, un Béninois, Désiré Segbé, le Bayern l'a pris en équipe B.
Ouais, en équipe réserve.
C'est ça, quand t'es mégastar au Bayern, Ribéry à l'époque, il n'avait pas fait
en Ribéry aussi. Donc, ouais. Ça fait partie, je pense.
Ça fait partie du deal, quoi.
Ouais. Ça fait partie des deals globaux. Je sais
quand
pas,
t'es une grosse star, tu peux
faire venir un pote. C'est pas nouveau, d'ailleurs.
Après, je pense que le mec joue au football quand même.
Bah, il est international béninois.
Voilà, le mec, quand même, c'est pas. Oui. Il a pas ramené Walid Acherchour.
Il vient de Génération Foot.
Oui. Il a ramené quand même un mec qui savait.
Ah, c'est pas, c'était le meilleur pote de Sadio Mané. Peut-être qu'il aurait pu faire un truc pour toi.
Non, mais c'est une belle histoire, parce que donc, il l'accompagnait au centre d'entraînement du Bayern, et là, maintenant, il va vraiment l'accompagner parce que lui aussi va jouer.
En équipe réserve,
bien entendu.
Mais encore une fois, c'est de plus en plus, je trouve, que ça se passe, ce genre de choses. Forme de, je sais pas si on peut parler de caprice de joueur ou de star, mais ça fait partie.
Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que ça ressemble pas vraiment à, tu vois, tu dis en Allemagne, bon. C'est ce genre de truc.
Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses. Tu sais, il y a des enveloppes Kraft en Allemagne comme partout. Hein. Faut pas le dire. Ah oui.
Avec des trucs dedans, tu veux dire.
Voilà. Tout à fait.
Voilà pour le Bayern. On a fait le tour sur le Bayern. On peut passer aux autres. Oui. On va le faire dans quelques instants. Petite pause. Et Dortmund, Leverkusen et tous les autres. Évidemment, le Mercato et le 32-16 est ouvert si vous voulez parler de foot allemand avec Polo. A tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
RMC,
l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Avec Walid Acherchour et avec Paul Breitner, car la Bundesliga reprend demain, donc on veut tout savoir. Avant
super match au passage. Francfort, Bayern pour commencer.
C'est ce qu'on disait.
Francfort, parce qu'après il y a la Super Coupe d'Europe.
Ouais, contre Real.
Ah ouais.
Ils ont fait un bon recrutement. Il y a Kolo Muani qui a signé notamment, qui était l'un des très très bons attaquants de Ligue 1 l'année dernière. Non, ça va être à suivre.
Bah parlons-en de Francfort. Alors du coup, tu disais pour tout à l'heure qu'ils avaient fait un recrutement malin.
Ah, plus que malin. Moi, c'est le retour. Ils ont mis, pareil, devant une énorme concurrence. C'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient Raphaël Boré, évidemment le Colombien en attaque. Ils avaient derrière le jeune Lindström et Kamada. Et ils ont rajouté en attaque Alario, qu'ils ont acheté, de l'international argentin, qu'ils ont acheté du Bayer Leverkusen. Et il y a Colomouani qui est arrivé. Mais en plus, ils ont été mettre du liant, mettre de l'huile dans le moteur, tu vois, parce qu'ils ont été chercher aussi Mario Götze. Et Götze, ça n'a l'air de rien, mais maintenant il a 30 ans, je ne l'ai jamais vu aussi fin que... Alors bien sûr, ce ne sera plus le grand espoir du football allemand qu'on avait vu champion du monde, évidemment, en 2014, etc. Mais qu'il a passé 2 ans au PSV Eindhoven, ça s'est pas mal passé du tout, il revient là, et si tu veux, il va y avoir une énorme concurrence pour mettre les trois de devant, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'ils ont joué modèle, moi, que je t'en avais souvent parlé, Gilbert, de la Coupe d'Allemagne qui commence toujours une semaine avant le début de la Bundesliga, ce qui c'est bien qu'il y a des clubs. Non, c'est le modèle. Enfin, j'ai pas le temps de l'expliquer, mais ça, c'est un truc qu'il faudrait mettre en France, mettre en place en France. Mais il faut changer juste le calendrier. Et là,
attention, parce que la Coupe d'Allemagne, est-ce que t'as tous les clubs qui participent comme en France?
Mais bien sûr, mais parce que les premiers tours de Coupe d'Allemagne, ceux qu'on ne voit pas, c'est en fait les coupes régionales. C'est-à-dire les premiers tours de Coupe d'Allemagne, c'est les coupes. Pourquoi est-ce qu'on parle jamais du premier tour de Coupe d'Allemagne, du Coupe de France, du deuxième, du troisième? C'est des matchs régionaux déjà. Non, aussi.
Je veux dire, les clubs pro entrent plus tard en Allemagne dans la compétition qu'en France.
Ben ils rentrent au 64e, ça fait quoi? Ça fait 32e.
Un truc, en France, on ne peut pas toucher à la Coupe de France.
Non mais
c'est une espèce de truc. Tout le monde trouve ça génial.
C'est Gilbert dessus.
Non mais c'est une version 3e
mois de janvier. Tu vas regarder un match. Tu as avec une caméra au niveau de la main courante. Mais c'est génial. On connaît pas un joueur, mais c'est génial.
Ouais, puis il fait moins 20. Il y a de la neige partout. C'est fabuleux.
Et après, attention. Ceux qui la jouent,
respectons l'histoire de la Coupe de France.
Ceux qui la jouent, ils se régalent et tout. Enfin bon, des fois quand on la regarde, on se dit mince.
Mais non, mais en fait, c'est juste de donner une place au club professionnel et une place aux coupes amateurs. C'est-à-dire que toutes les régions sont représentées en Coupe d'Allemagne chaque année parce que les clubs amateurs gagnent leur coupe régionale. C'est très très bien rémunéré. Le premier tour de Coupe d'Allemagne pour un club amateur, c'est 210 000 euros, même s'il se fait éliminer. C'est énorme pour les budgets des clubs. Mais c'est pas grave. Et donc, Francfort, était tombé contre un promu en seconde division très cher à la personne qui partage ma vie, le FC Magdebourg. Et ils ont fait une démonstration alors que la seconde division a déjà commencé depuis 2 journées. Donc il y a toujours ce risque lorsque tu as ce premier tour de Coupe d'Allemagne que les clubs de l'élite sautent parce qu'ils sont pas prêts physiquement. Alors quand ils tombent contre les clubs de seconde division, et ils ont fait une démonstration à Magdebourg avec 5 joueurs offensifs. D'ailleurs, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est Lindström, est-ce que c'est Götze ou Kamada qui sera titularisé, ben lui, c'est pas Oliver Glasner, il s'est pas embêté, l'Autrichien, il a mis les 3. Et donc, il jouait avec Djibril Sow, l'international suisse, en numéro 6. Et c'était très, très offensif, c'était Boré. Puis ensuite, Alario est rentré. Puis ensuite, Colomouani est rentré, qui a fait une passe décisive d'ailleurs. Donc, tout ça a été 4-0, c'était assez impressionnant.
Et derrière, ils ont gardé le petit NDK derrière?
Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes le 4 août, 23h30
c'est quand même
presque.
Bizarre, quand même.
C'est extraordinaire. Kostic, Ndika, Kamada sont toujours au club. Qu'on les attendait partant, mais moi, je vais attendre jusqu'à la fin août parce que il faut absolument que Francfort arrive à les conserver, voire à les prolonger. Mais c'est très bien ta remarque, Walid, parce que il y a quelque chose, enfin, vous en avez sûrement parlé dans l'after. C'est que vous savez qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et beaucoup de personnes pensent que le mercato hivernal qui va arriver, donc post-Coupe du Monde, va être le plus démentiel de l'histoire du foot. Parce que les joueurs veulent rester dans leur club pour disputer la Coupe du Monde, pas prendre de risques. Et donc, en fait, on va décaler les achats au mois de janvier 2023.
Ouais, c'est...
Pourquoi pas, ouais. Ça peut être le cas.
En tout cas, c'est génial d'avoir encore Kostic et Ndika. Je vous dis, c'est un... mais ils n'ont plus qu'un long contrat, il faudrait quand même qu'ils prolongent.
Ouais. Bon, voilà pour Francfort. Vainqueur de la Coupe d'Europe.
L'Europa League l'année dernière.
J'en rajouterai pas sur le public de Francfort. Tu sais ce que j'en pense, Polo. Dortmund, maintenant. Dortmund, où en est-on? Alors, malheureusement, on a vu les soucis de santé d'Aller qui vient d'arriver. Oui, succession de soucis, en fait.
Oui, parce que si tu veux, le Borussia Dortmund, alors ça c'était avant la mauvaise nouvelle de l'Ivoirien Sébastien Haller. Je dis Ivoirien parce que moi j'aurais bien vu en équipe de France lorsqu'il était déjà à Francfort à l'époque, hein, quand on sélectionnait un Giroud, le même profil avec Sébastien Haller, j'aurais bien voulu le voir. Mais bon, ça c'est Didier Deschamps, hein, c'est comme ça. Super recrutement en défense centrale évidemment avec Nico Schlotterbeck et Niklas Süle, l'ancien du Bayern Munich. Nico Schlotterbeck, révélation de l'année, international allemand, etc., qui sera sûrement dans le groupe pour la Coupe du Monde, peut-être titulaire, on verra si on est dans une défense à 3. Donc ça fait du bien parce que c'était l'un des chantiers du Borussia Dortmund qui avait beaucoup de problèmes. L'arrivée évidemment d'Adeyemi, l'international allemand, l'arrivée donc Sébastien Haller, malheureusement il a un cancer des testicules et ça va durer longtemps. J'ai envie de dire, la petite bonne nouvelle, c'est qu'on annonce un autre attaquant qui va être présenté normalement la semaine prochaine au Borussia Dortmund. Et il n'y a pas de nom qui circule, enfin, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais si tu veux, on ne sait pas trop ce que ça va donner.
Malheureusement, la nature a horreur du vide. Donc, oui. dans le malheur d'Haller, ils vont être obligés de recruter à sa place, sans doute.
Alors, ils vont recruter à sa place. Alors, ils ont fait une démonstration en Coupe d'Allemagne. J'ai un trou de mémoire contre qui? Contre Munich 1860, qui est le club favori pour la montée en seconde division cette saison. Ils ont fait une démonstration.
Avec Malen Adeyemi.
Il y a Malen qui a joué à gauche et qui a été bon. Alors que l'année dernière, il avait été plus que moyen, voire médiocre, et ça pourrait être le grand gagnant, malheureusement, de la des soucis de santé de Sébastien Haller, c'est que Malen redevienne titulaire. Donc il y a Moukoko aussi, évidemment, qui lui n'a plus qu'un an de contrat. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes, mais apparemment il va prolonger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent absolument acheter un nouvel attaquant. Il y a autre chose.
Parce que Malen, c'est un profil différent quand même, Polo, de Sébastien.
Ah oui, on est d'accord, mais on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que Sébastien Haller, moi j'aime beaucoup Sébastien Haller de par son profil, etc. Je le suis depuis des années et voilà, ça faisait, encore une fois, j'aurais vraiment voulu qu'on l'essaye en équipe de France lorsque c'était possible. Et là, on va avoir un nouvel attaquant, donc relativement grand, qui devrait arriver, donc 1m90 au minimum, parce que Moukoko, c'est encore trop jeune, et puis on sait plus trop, vu la saison très moyenne l'année dernière qu'il a réalisé, on sait pas trop s'il est vraiment bon. Malen, il a une deuxième année. T'avais sa deuxième année et ça pourrait être la bonne nouvelle. Et puis Adeyemi, encore une fois, c'est 20 ans seulement, donc on va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le coach Terzic qui est revenu. C'est celui, alors les gens ont peut-être oublié, c'est celui qui avait remplacé Lucien Favre après le licenciement de ce dernier, qui avait été en quart de finale de Ligue des Champions, dominé par Manchester City, et qui en fin de saison avait gagné la Coupe d'Allemagne. Donc si tu veux, il était dans le club toujours, un peu comme une épée de Damoclès à la place de Marco Rose. Et dès que Marco Rose a été licencié, Terzic a repris la place. Donc ça va être normalement très solide, beaucoup de contres, ça a été impressionnant contre Munich 1860, c'est-à-dire que on a un milieu de terrain relativement fort, et puis avec des joueurs super rapides comme Malen, Adeyemi et Moukoko, on se projette vers l'avant d'une façon très très rapide. Beaucoup de personnes pensaient, avant la blessure, enfin l'annonce de la tragédie de Sébastien Haller, que le Borussia Dortmund était le grand favori pour la saison 2022-2023. Je vais mettre une petite pièce, mais je ne veux pas être sûr, je pense que le Bayern est au-dessus quand même.
Je ne sais pas.
Enfin, les questions, il y a quand même pas mal de questions.
C'est le grand vide après Haaland quand même.
Bah oui, déjà Haaland, ils avaient perdu Sancho déjà l'année d'avant. Et puis aujourd'hui, le retour de Terzic, alors je ne sais pas comment c'est vu en Allemagne, mais ça pose quand même pas mal de questions, non? Moi, sur son premier passage, dans le jeu notamment, je n'avais pas trouvé. Après, Dortmund, sur les dernières années, notamment défensivement, là, ils ont peut-être réglé les problèmes avec les deux arrivées de Schlotterbeck et de Süle, mais moi je.
Qui s'est blessé au passage.
Ouais, moi, j'étais un peu sûr. Moi, personnellement, j'étais un peu surpris de son retour à Terzic.
Il était on va dire dans le club et on sentait qu'il trépignait.
Je pensais qu'un coach de renom allait prendre la succession de Marco Rose.
Alors, Terzic, il est très coté, en fait. Ouais. Ce qui est sûr, et c'est là que je te suis à 200%, c'est que s'il y a bien un club en Europe qui nous a déçus sur les 2-3 dernières saisons, et j'inclus la période Lucien Favre, c'est le Borussia Dortmund, parce que le potentiel de cette équipe n'est pas, à mon avis,
utilisé
dans sa plénitude. On est très frustrés. Leur parcours en Ligue des Champions l'année dernière, et là, pour le prouver, c'était dramatique. Mais il y a aussi ceux qui disent, oui, ok, mais le Norvégien, le cyborg norvégien n'est plus là, ça va permettre aux joueurs de se libérer. c'est pareil, c'est comme Lewandowski, il va falloir que chacun mette ses buts, quoi. On va pas avoir un joueur normalement qui va te mettre 30 pions cette saison. Donc tu vas avoir peut-être Adeyemi, alors c'est très jeune, mais déjà si, parce qu'en plus c'est pire, c'est les mauvais résultats entre guillemets en Europe du Borussia Dortmund font qu'ils se retrouvent dans le chapeau 3 maintenant et qui se sont fait dépasser au ranking UEFA par le RB Leipzig. Donc ça veut dire que théoriquement aujourd'hui, le numéro 2 en Allemagne, c'est le club de l'ex-Allemagne de l'Est et non plus le Borussia Dortmund, quoi. Et donc si déjà le Borussia Dortmund faisait plaisir sur le terrain, ne finissait pas trop loin du Bayern Munich et en plus il y a un super match ce week-end, hein, c'est samedi 18h30, le Top Spiel, Dortmund contre Leverkusen, tu vois, ça va être, on va être directement dedans. Ils ont fait une très très belle démonstration contre Munich 1860 en Coupe d'Allemagne. Moi je suis assez optimiste lorsque je vois l'effectif, je pense qu'il risque d'y avoir encore des départs. Malheureusement, Haller est blessé, Zule a une blessure aussi qui va être absent 2-3 semaines, ce qui fait qu'Akanji qu'on a lancé sur le départ a été réintégré et pourrait finalement faire sa dernière année de contrat au Borussia Dortmund. Mais en tout cas, ils nous doivent une sacrée revanche rien que pour le spectacle.
Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui la colonne vertébrale, même le 11 type est plutôt alléchant avec un gros potentiel. Tu l'as dit avec les deux arrivées qui peuvent entourer peut-être dans une défense à 3 un Hummel, si t'as encore Guerreiro qui est là, Thomas Meunier s'il veut retrouver un jour le goût de jouer au football, il peut apporter. Au milieu de terrain, t'as gardé Jude Bellingham, bon on sait pas qui va jouer à côté, et puis le trio de devant, t'as quand même Royce qui peut encadrer des jeunes qui peuvent aller très très vite. Donc bien entendu que le potentiel est là. Maintenant, moi sincèrement, Polo, c'est toujours une équipe qui m'intéressait, le Borussia Dortmund, mais j'ai été trop trop déçu sur les dernières années, et pour les voir gagner la Bundesliga, j'ai quand même beaucoup beaucoup de réserves. Et tu parlais de Leipzig tout à l'heure, je mettrais peut-être même Leipzig comme premier concurrent derrière le Bayern par rapport à la dynamique.
On verra, mais en tout cas, moi, il faut au minimum qu'on s'éclate avec le Borussia Dortmund.
Oui, oui,
c'est
oui.
Ça qu'on veut, quoi.
On veut du beau match à 15h30.
Voilà, c'est ça. Et même et en Ligue des Champions, parce qu'il y a le public, ça c'est aussi quelque chose qu'on a oublié.
Ça, c'est le week-end de Walid.
Samedi 15h30, on est à la Redac et on se régale devant Dortmund, normalement. Mais bon, sur les dernières années, on s'est
regarde
pas
Paris FC Rodez.
Non, malheureusement, je laisse ça aux autres.
Très bien.
Il faut de tout.
Pourquoi, Polo, est-ce que tu fais de Leverkusen un club potentiellement en trouble fête?
Ben parce que encore une fois, quand tu regardes l'effectif, tu as le droit de dire bien, c'est possible. Et puis ça, c'était avant que je regarde le match de Coupe d'Allemagne qu'ils nous ont sorti contre une équipe de 3e division. Ils ont perdu 4-3. Les mecs, ils marchaient pendant les 90 minutes. Alors j'ai voulu faire de la provocation en disant le Bayer Leverkusen, parce qu'on connaît très bien l'histoire de Leverkusen qui arrive jamais à avoir ses objectifs. Mais quand tu vois l'équipe Schick, qui est pour moi aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants d'Europe, meilleur neuf, Diaby, s'il a la forme de l'année dernière, ça marche très bien. Malheureusement, le petit prodige Wirtz est blessé et sera encore absent. On sait même pas s'il sera à la Coupe du Monde. Mais tu as tout ce qu'il faut. Alors ils ont été chercher le jeune Lozek, hein, que vous connaissez peut-être.
Tout le monde en parle bien, le tchèque.
Ah, bah ouais, mais c'est pareil, il a 19 ans, donc ça va être un petit peu compliqué pour lui.
Le petit Adli qui va
revenir. Alors, je vais mettre un tacle. Adli, est-ce qu'il est doué? La question est oui. Est-ce qu'il doit progresser?
Oui.
Et la question est plus que oui. Là, c'est vraiment, il fait des mauvais choix. Il fait souvent le plus difficile, vous savez, c'est le genre de joueur qui va vous éliminer 2-3 joueurs et se trouver en un contre un contre le gardien, et puis il va envoyer le ballon n'importe où.
Notamment le match l'an dernier contre le Bayern, c'était assez flagrant.
Il y a des choses comme ça. Donc il a tout. Pour moi, c'est un joker de luxe au Bayern
Leverkusen. Il a un gros potentiel. Ouais.
Il a un énorme potentiel, mais je suis pas persuadé qu'il soit au niveau de, on va dire, la triplette théorique, c'est Wirtz, Schick et Diaby. Malheureusement, Wirtz est pas là. Donc la grosse question du Bayern Leverkusen, c'est comment est-ce qu'on le remplace. Donc est-ce qu'on fait jouer l'Iranien Azmoun, que moi je trouve qui avait fait des très belles statistiques en Russie, je l'ai pas vu malheureusement, mais c'est très moyen depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal. Et puis Lozek peut-être, et puis on annonce quand même l'arrivée d'ici fin août, encore une fois, d'un ailier à plusieurs milliers de millions d'euros, donc qui pourrait remplacer tout ça. Il y a un très bon milieu de terrain avec Demir Bey, évidemment, Andrich, l'ancien de l'Union de Berlin, et
derrière, parce que c'est le problème, c'est derrière, ça prend beaucoup de buts le Bayern.
Mais c'est pas la question c'est plus une question d'équilibre, c'est plus le milieu de terrain défensif qui doit faire son boulot. De Mirbet, tu vois, c'est pas le mec qui est très doué internationalement, etc. Mais c'est pas celui qui fait le gros travail. Par contre, quand t'as Tapsoba, quand t'as Jonathan Ntah qui a fait une très bonne saison l'année dernière, quand t'as Kosonou qui est toujours en progression, quand tu as Piero Hinkiapie.
Kosonou
Oui, bah non. Oui. Kosunu. L'Ivoirien. Que tu as sur les côtés, Backer, Frimpong, etc. T'as le droit de te dire que tu peux faire quelque chose avec une équipe comme ça. Je les attends beaucoup en Ligue des Champions. Ils vont être chapeau 3 si ma mémoire ne me fait pas défaut. J'espère que ce sera une très très belle surprise cette saison. L'année dernière, pour la première saison de l'international, du coach suisse, Gerardo Seoane, ils ont fini 3e. Il leur manque peut-être une petite référence, deux petites choses, mais cette génération de joueurs, le banc est là, ils sont un peu jeunes, ok, mais si, je pense pas qu'ils pourront aller sur tous les tableaux, mais c'est fort possible. Ils pouvaient se concentrer sur la Bundesliga, on pourrait avoir une énorme surprise.
Dans un instant, un petit point sur Leipzig et puis sur les promus également, des gros clubs qui reviennent en Bundesliga là cette année, le Werder, Schalke. Et puis il y a une info qui n'a rien à voir avec la Bundesliga, mais c'est Florent Germain qui nous le signale. Sachez que Jordan Veretout sera demain à Marseille. Visite médicale dans la foulée, contrat de 3 ans avec sans doute une année supplémentaire en option. Voilà ce qu'avait voilà les infos du soir de Florent Germain. Donc nouvelle recrue pour l'OM, on aura l'occasion d'y revenir demain soir, notamment sur la polémique qui enfle autour de l'arrivée de Jordan Veretout. Pour trouver pas mal d'infos là-dessus d'ailleurs sur le site rmcsport.fr. Et puis sur Direct Studio, j'ai quelques messages. Les gars, je voulais faire un petit coucou aux auditeurs qui nous écoutent en Australie parce qu'on a des problèmes d'appli. Vraisemblablement, l'appli RMC, je ne sais pas ce qui se passe, fonctionne plus là-bas. Donc si vous voulez... mon conseil stratégique pour ceux qui n'ont plus les podcasts de l'After sur l'appli, c'est aller sur Spotify. Là, je peux vous dire que ça marche. C'est vérifié. Donc, voilà. Je fais notamment un coucou à Lionel qui m'envoie un message là depuis Sydney. Et puis tout à l'heure, on se posait la question de joueurs qui sont passés par Guingamp et Arsenal. Mmh. Il y en a quand même un évident qu'on a oublié.
C'est qui ?
Ah bah oui. Et c'est Kevin qui nous le signale, c'est Koscielny.
Koscielny, il a joué à Guingamp ?
Eh oui.
J'ai Lorient, mais j'ai pas Guingamp, moi.
On
est sûr de ça.
Du coup, tu te fais douter.
Ouais, parce que j'ai Tours, j'ai Lorient, il me semble.
Non.
Guingamp.
Oui.
Alors, Guingamp, j'ai aucune image de Koscielny à Guingamp, moi.
Eh ben, si.
Ah oui ?
Oui.
Donc,
2004. Voilà. Ouais. Tu m'as fait douter, mais.
Bravo à Kevin. Bravo à Kevin.
Ça, c'était avant ou après Lorient, du coup ?
C'était avant, je crois. Parce qu'il fait Lorient Arsenal.
Il fait Guingamp, Tours.
Voilà.
Lorient-Arsenal.
Vous n'avez pas la première étape.
Et Bordeaux. Voilà. Il a fait jouer à Brive et à Tulle, mais ça, c'était plus jeune.
Ouais.
Allez, à tout de suite, la Bundesliga au programme jusqu'à minuit, bien sûr.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Oh. 23h43. Walid Acherchour est toujours là. Paulo Breitner est là également. La Bundesliga jusqu'à minuit. Philo qui te remercie, Paulo. Voilà, quelle présentation, c'est magnifique.
Je te fais la même chose en seconde et troisième division.
Ah bon? Ouais. Oui, mais tu m'as bluffé sur Munich du 160, là. Ancien club de grande légende comme Amédi Pelé ou Samuel Lipois.
Ouais. Exactement, mais en fait il y a beaucoup de choses. Ils ont fini quatrième, si je me rappelle bien, de Dritte Liga l'année dernière, qui est un peu le cimetière des éléphants en fait. Hein,
et le Dynamo Berlin, division. Ils en sont où?
Alors attention, parce qu'on en parle beaucoup de lui. On en parle beaucoup. Ils sont en Regional Liga Nord-Est, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
Munich 1860. Mon papa m'en parlait beaucoup quand j'étais petit.
Ah bon? Voilà.
Ouais, c'est un club qui
là. Il est c'est le favori pour revenir en seconde division. Et d'ailleurs cette année, c'est quand même Kaiserslautern qui est monté en seconde division et il y avait déjà 40 000 spectateurs. C'est une partie des tribunes qui est encore en réparation, mais sinon on va avoir 50 000 spectateurs en deuxième division.
Et donc en troisième div, t'avais 40 000, mais parce que le stade est en travaux. Sinon c'était
ah oui, c'est comme ça.
Parlons un peu maintenant des autres et de la Leipzig, parce que est-ce que finalement la progression de Leipzig, c'est pas un peu, comment dirais-je, c'est pas un peu stoppé, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est un club qu'on a vu arriver.
Exactement, mais en fait c'est ce que tu dis, c'est extraordinaire, c'est exactement ça, et c'est pour ça que moi je mets un petit bémol à ceux en Allemagne qui disent que Leipzig c'est le premier des concurrents du Bayern. Ce qu'a fait le RB Leipzig est extraordinaire. C'est seulement sa 7e saison en Bundesliga. Ils ont enfin gagné leur premier titre l'année dernière avec la Coupe d'Allemagne, même si c'était pas la meilleure équipe sur le terrain contre Fribourg, mais ils sont aujourd'hui dans le chapeau 2 de Ligue des Champions. Mais, et là je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu viens de dire Gilbert, je pense qu'ils ont atteint leur plafond de verre. Et l'année dernière, j'avais demandé aux anciens, aux drôles de dames, pardon, comment est-ce que Leipzig pouvait rentrer dans le top 8 européen. Mais le top 8 européen, c'est quoi? C'est, faisons-le rapidement, Real, Barça, PSG, Bayern, Liverpool, City, Chelsea, et tu rajoutes la Juve, ça fait 8. Tu vois, je parle même pas de Dortmund, je parle même pas de l'Atletico ou de Manchester
United. Oui, mais un seul club allemand dans les 8.
Bah ouais.
Oui. Bah, oui, je suis d'accord.
Bah, aujourd'hui, c'est ça. Et pour arriver à ce top 8, comment tu fais? C'est pas avec le modèle du RB Leipzig que tu peux y arriver. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment passer un cap. Et ils ont fait quelque chose. Enfin, c'était pas gagné. Ils ont réussi à prolonger Nkunku, ce qui est quand même assez extraordinaire.
Très bonne nouvelle.
Les joueurs qui partent. Élu joueur de l'année, d'ailleurs, officiellement, maintenant, par les journalistes de Kicker, en 2021-2022, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est assez extraordinaire à Leipzig, c'est qu'ils ont annoncé aussi, dans la prolongation avec Nkunku, qu'ils allaient faire de gros investissements. Moi, je les attends toujours, les gros investissements. Donc, OK, ils ont récupéré David Rome, qui est l'international allemand, c'est extraordinaire. Lui, il y a un an, il était en seconde division avec Greuther Fürth. Il est maintenant internationalement, c'est le meilleur pied gauche d'Allemagne concernant les centres, et ça, c'est fabuleux. Donc, il va être en concurrence avec Angelinho, évidemment. Donc, à ce niveau-là, c'est assez intéressant si les Espagnols restent au RB Leipzig. Ils ont recruté Schlager, l'international autrichien que j'aime beaucoup, qui est un box-to-box de 24 ans, etc. Mais quid du neuf? C'est-à-dire qu'on a toujours aujourd'hui Silva qui a fait une saison très moyenne. On ne sait pas le Silva qu'on avait vu à Francfort.
Il y a le retour de Sorloth aussi, non?
Ouais, mais Sorloth, c'est bon. Enfin, faut qu'il aille jouer au rugby, quoi.
Avec André Silva qui t'a mis il y a deux saisons 28 buts en Bundesliga et Sorloth, normalement, tu dois avoir.
Ouais, mais Sorloth, il sera même pas titulaire. Enfin, il sera même pas là. Je pense que même à la fin, à mon avis, fin août, il sera pas là du tout. C'est Poulsen sans remplaçant, sauf que Poulsen est blessé, malheureusement. Tu as, évidemment, Forsberg, mais Forsberg, il est plutôt jeune. Tu as le cas de Dani Olmo, parce qu'on a encore, évidemment, dans un 3-4-3, une défense à trois, les trois joueurs offensifs, c'est théoriquement c'est Olmo, Nkunku et puis j'ai envie de dire X, même si c'est Silva, mais moi j'aimerais avoir un vrai neuf s'ils veulent un vrai tueur devant la surface, parce qu'il va falloir passer un cap. Ils ont perdu, ça a l'air de rien, même s'il a fait une saison très moyenne et que c'était pas l'amour fou avec Tedesco, ils ont perdu Mukiele qui aujourd'hui est au PSG. Donc moi Henry, je suis pas un grand fan absolu. Et puis ils ont certes un grand défenseur central d'avenir qui est Guardiola, hein, je cite ce que disait Ralf Rangnick, c'est le futur top 5 européen. Mais Klostermann, c'est pas bon. Alsterbeng, c'est pas bon. Quand je dis c'est pas bon, c'est pour passer un cap. Hein. C'est pas que c'est pas des bons joueurs de Bundesliga, etc. Simakan, vu le match qu'il a fait contre le Bayern, va falloir qu'il se réveille rapidement. Donc il est jeune. Et puis il y a Orban, évidemment. Mais Orban, il est bon quand Guardiola est là. Donc c'est toujours pareil. Le gardien Goulachy est évidemment titulaire. Donc là, on a la filière hongroise. J'ai oublié de citer Szoboszlai, évidemment. Donc ce sera peut-être la révélation de cette saison. Mais il faut encore lui trouver une place au milieu
de terrain. C'est ça, en fait, Polo. Il y a beaucoup de joueurs, quand même, qui sont arrivés l'année dernière, qui ont eu du mal un petit peu à décoller avec le début de saison sous Jesse Marsh. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir sur les joueurs que tu cites là, c'est-à-dire que Szoboszlai, l'année dernière, il arrive avec beaucoup d'attentes. Là, cette année, je pense que sur une deuxième année, ça peut faire la différence. Tu parles de Simakan, peut-être qu'il va se révéler. Guardiola, c'est un joueur qui s'y reste, hein, parce que on en parle à Chelsea, on en parle un peu partout. S'ils arrivent à le garder comme ils ont gardé Nkunku, je pense que tu peux prétendre à de très très belles choses, que ce soit en Europe ou surtout en Bundesliga, parce que la question à la base, c'était surtout par rapport au premier contender du Bayern. Leimer, il a encore fait un match, sa deuxième mi-temps contre le Bayern Munich, mais elle a été fantastique. Sur les côtés, je trouve qu'ils ont quand même des bons joueurs. Ils viennent de recruter le petit de Dofenheim que tu disais. Moi, je pense sincèrement, André Silva, la même chose. Il a eu un trou l'année dernière, mais je pense que ça reste quand même un buteur en Bundesliga qui est très honnête. Franchement, j'ai des bonnes ondes sur.
Ils ont gardé l'ossature. Là, t'as raison, t'as tout à fait raison. Ils ont gardé l'ossature. Mais moi, j'aimerais, honnêtement, qu'ils aillent chercher ces un ou deux joueurs qui te font vraiment la différence. Il y a un exemple.
Moi, je pensais qu'ils allaient perdre Nkunku cette année déjà. Je pensais vraiment qu'ils allaient perdre.
Donc, à ce niveau-là, alors ça, c'est un peu, tu sais, parce qu'à l'Allemagne, là, ça a l'air de rien, mais il faut voir comment la première ligue s'est servie encore en Bundesliga cette saison. Hein. Vous regardez ce qui s'est passé, le club de Jesse Marsh, j'ai un trou de mémoire.
Leeds, avec Tyler Adams.
Le gars, il a fait Jesse Marsh, il a tout pris à Salzbourg, il a tout pris.
Il a fait 6 points.
en Bundesliga, elle a fait ses courses. Et donc c'est assez intéressant. Mais le problème, encore une fois, c'est est-ce qu'on se satisfait d'un huitième de finale de Ligue des Champions ou de finir deuxième derrière le Bayern en essayant d'ailleurs de le battre de temps en temps, etc. Ou est-ce qu'on se dit, mais on peut passer le cap, on peut réussir à faire quelque chose qui est supérieur. Et le vrai problème que j'ai, pour avoir un peu vraiment travaillé dessus, c'est que pour être dans le top 8 européen, aujourd'hui, ça demande des investissements extraordinaires. C'est monstrueux, en fait, ce qu'on doit faire entre être un top 16, top 20 européen et le top 8. Je sais que beaucoup critiquent le PSG, tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée des Qatar. Mais cet argent, Leipzig ne l'a jamais investi, par exemple, en Allemagne. Donc il y a un moment, ton plafond de verre, il est là. Donc le fait d'avoir gagné la Coupe d'Allemagne, qui est le premier titre officiel gagné par le club saxon, c'est très important parce que ça va peut-être libérer le club aussi ailleurs. On a réussi à gagner quelque chose. Ben, je vous rappelle aussi qu'ils ont été éliminés par les Glasgow Rangers en demi-finale d'Europa League. Ça, c'était délicat ce qui s'est passé l'année dernière.
C'est un peu une déception. Ouais.
Parce que avec tout le respect que j'ai pour les Glasgow, ça va. Enfin, Leipzig est au-dessus. Donc il y avait quand même une belle finale allemande à faire en Europa League. Et là, encore une fois.
Mais aujourd'hui, la marche, même en tant que club, la marche par rapport au top 8, elle est trop haute. C'est-à-dire que moi, j'attends pas Leipzig. Après, c'est d'un œil extérieur. Hein, je suis pas branché sur le championnat allemand comme toi, mais quand je vois l'échiquier européen aujourd'hui, déjà ils ont réussi à faire une demi-finale sur l'année Covid là, quand le Bayern gagne la Ligue des Champions, c'était déjà de sortir l'Atlético Madrid à cette époque-là, de balayer les Spurs en huitième de finale de cette manière, mais c'était déjà énormissime pour un club aussi jeune. Moi, je pense que c'est plus là où je peux te rejoindre, c'est plus la capacité à aller shipper une Bundesliga au Bayern sur les prochaines années, où là on va être un petit peu plus exigeant. Maintenant sur la Ligue des Champions, si tous les ans ils font quart de finale de Ligue des Champions ou huitième de finale de Ligue des Champions, ce sera déjà pour moi très bien.
Je te suis, mais moi je cite ce que dit le RB. Le RB dit on va faire de gros investissements. Moi la question c'est qu'est-ce que ça veut dire de gros investissements. C'était lors de la prolongation de Nkunku. On dit oui, donc en gros on lui a assuré que des joueurs allaient arriver. Ben moi je les attends toujours ces joueurs-là.
Ah,
David Rome c'est très bien, ok, mais enfin des David Rome j'en ai 20 en Europe, c'est pas la question. c'est un très bon piston gauche. Il y en a en Europe, hein, c'est pas la question. Mais moi j'attends le milieu de terrain. Donc Konrad Leimer qui tu mets à côté, donc on a préféré prolonger Campbell, qui évidemment est un très bon joueur, c'est pas la question. Mais moi, j'aimerais bien,
des gros joueurs.
Voilà, tu vas chercher un vrai 8, un monstre que tu mets là maintenant. Ok, on passe un cap. Donc, encore une fois, en Allemagne, on considère que Leipzig est le premier aujourd'hui des concurrents du Bayern parce que Dortmund, il y a malheureusement eu le cas Sébastien Haller. Mais moi, je reste un petit peu dubitatif sur ce qu'ils vont faire, j'espère.
C'est quoi ton quatuor, toi, là, comme ça, à la volée, en fin de saison, ton prono?
Donc, j'ai Bayern en 1, j'espérais Leverkusen en 2. Mais en fait, j'espère tout, moi. Donc,
la raison.
Alors, Leverkusen, j'aime beaucoup leur effectif. J'aime beaucoup son effectif, ils ont tout pour réussir quelque chose.
Oui, non, mais
très, très
je dis que ton prono de raison, pas de cœur. Toi, qu'est-ce que tu vois à la fin de saison en
1, 2 Dortmund, 3 Leverkusen, et 3 Leipzig et 4 Leverkusen, d'accord. 5 Francfort.
Et tu penses qu'il n'y a pas une équipe, hein, genre Fribourg, second couteau, qui peut faire une surprise?
Alors Fribourg,
l'Union de Berlin qui avait fait une belle saison.
On va se maintenir, on va déjà essayer de se maintenir, on va jouer l'Europa League, on va être chapeau 3 ou chapeau 4.
Vous êtes notre FC Nantes, quoi, c'est-à-dire là avec l'Europa League, ça va être compliqué.
Non, mais justement, là, en fait, ce qu'on oublie, c'est que cette saison, elle est extraordinaire parce que il y a 9 équipes qui peuvent descendre, il y a 9 équipes ou 10 équipes qui peuvent être en Europe. C'est-à-dire qu'il y a, excepté Borum qui s'est fait piller, évidemment, qui était monté l'année dernière et qui a perdu toute sa défense centrale, notamment Botchaf qui est parti pour plus de 10 millions d'euros en première ligue, Werder de Brême qui revient, qui avait déjà une équipe de Bundesliga en seconde division l'année dernière, ils se sont renforcés. Schalke est un véritable candidat à la relégation, mais quand tu vois l'effectif qu'ils ont, Ça va être, va falloir se les coltiner. Cologne qui est en Europa Conference League, est aussi un candidat à la relégation. L'Union Berlin qui est en Europa League est un candidat à la relégation. Augsbourg est un candidat à la relégation. Mayence, le Hertha Berlin, j'en parle même pas. J'étais persuadé qu'ils allaient se faire taper en Coupe d'Allemagne, ça a pas raté. Le Mayence, on sait pas s'ils sont en Europe ou candidat à la relégation. Stuttgart, c'est pareil. Et puis le cas Fribourg où Christian Strach a été enfin élu meilleur entraîneur 2021-2022 de la Bundesliga. Il aurait déjà dû être meilleur entraîneur de Bundesliga en 2014, mais en 2014, il s'est passé quelque chose en Allemagne. La sélection nationale a été championne du monde et donc on a mis Yogi Löw comme le sélectionneur. Fribourg donc sera en Europa League, a fait un recrutement très très intéressant puisqu'ils ont perdu évidemment Nico Schlotterberg qui est parti à Dortmund pour 20 millions d'euros, mais ils ont récupéré Ginter en défense centrale, l'ancien champion du monde d'ailleurs, très expérimenté, qui a été formé à Fribourg. Et franchement, ils ont récupéré aussi Doan. Alors là, c'est évidemment les joueurs des seconds couteaux, qui est un international japonais, qui est au PSV Eindhoven, qui fait que aujourd'hui, on a plusieurs ailiers comme Doan, comme Salah, que vous connaissez, le Hongrois, comme Grifo, l'international italien. Donc je pense qu'ils vont avoir une équipe très compétitive en Europe. Mais Fribourg, c'est quoi au maximum 150 millions de chiffre d'affaires, et en Allemagne c'est pas possible de jouer les premiers rangs.
Oui, je te posais la question de savoir s'il y avait un club type Fribourg, tu vois, qui pouvait faire ce qu'ils ont fait l'an dernier en fait.
Wolfsburg normalement qui doit être à cette place-là.
L'année dernière, il y a beaucoup de clubs.
Hoffenheim.
Il y a Hoffenheim, Wolfsburg, Mönchengladbach. L'Eintracht, je vous l'ai déjà dit. Et peut-être Stuttgart s'ils arrivent à continuer à conserver leurs joueurs, c'est pas encore sûr.
Gladbach, ils ont recruté personne, Gladbach?
Alors, ils sont un peu calmés au niveau du recrutement parce que
la saison dernière, c'était catastrophique, hein.
Alors, c'est catastrophique. Justement, c'est ça. Hoffenheim, Mönchengladbach, Wolfsburg, Francfort en championnat, pas en Europe évidemment, nous doivent une revanche. C'est-à-dire ça, c'est les clubs surprises qui peuvent nous permettre, qui doivent aller chercher notamment une place en Europa League, voire plus, comme on a vu évidemment avec Mönchengladbach il y a deux ans lorsqu'ils ont été en huitième de Ligue des Champions. Non, le Mönchengladbach pour l'instant. Alors il faut aussi que vous rendez compte que la pandémie a fait beaucoup de mal au football allemand parce qu'il n'y a pas de milliardaires, parce qu'il n'y a pas de choses comme ça. Donc on a utilisé des fonds propres. Et donc ces clubs, ils ont vendu beaucoup de joueurs pour récupérer des trésoreries. Et donc il a fallu se serrer un peu la ceinture. Mais au jour, en ce moment, Thuram est toujours là. Pléa est toujours là. Ils ont perdu Mbolo, mais Mbolo, rappelons-le, moi un joueur que j'aime beaucoup.
Pléa et Thuram, ils pourraient être plus là dans quelques semaines. Hein.
Qui?
Les deux.
C'est possible, mais ça veut dire qu'il va y avoir du recrutement.
Mais à Nice notamment.
Ils sont toujours là.
Pour l'Algérie, Khalid Ben Sebaini part de Gladbach aussi.
Mais à la rigueur, ça serait bien qu'ils partent dans le sens où c'est une fin de cycle.
Ouais.
Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont fini quatrième de la boulie. Ils étaient encore un peu jeunes à l'époque. Ils ont été huitième de Ligue des Champions. Hop, ok, on ferme ça et puis on recommence un nouveau cycle. Hoffenheim a fait un recrutement très très intéressant. Wolfsburg, nouveau cycle évidemment avec Niko Kovac. Et là, les trois clubs que je viens de vous citer ont trois nouveaux coachs. Il y a Farke qu'on connaissait de la Première Ligue, qui avait fait un excellent travail avec Norwich avec relativement peu de moyens par rapport aux grosses écuries de Première Ligue. De mémoire, il avait fait monter deux fois Norwich, je crois, si je me rappelle bien. Vous avez Brighton Reiter, qui a été champion de Suisse à la surprise générale avec le FC Zurich l'année dernière, qui débarque à Hoffenheim parce que Dietmar Hopp a fait dégager complètement Sébastien Hoeneß, vous savez, le neveu d'Uli Hoeneß, qui est coach que j'aime beaucoup, mais qui n'avait pas réussi à stabiliser l'équipe. Et puis, il y a Niko Kovac à Wolfsburg qui revient. Et donc, de ces coachs, Farke, Brighton Reiter et Niko Kovac, ce sont plutôt des coachs conservateurs. Donc on va peut-être faire moins d'essais sur le terrain, mais on va aller chercher des résultats et j'espère que ça produira quand même du spectacle.
Vous savez tout sur la Bundesliga qui démarre demain. D'ailleurs sur RMC, demain on suivra Francfort Bayern.
On a fait un vrai guide, un guide radio.
C'est ça, exactement.
Et puis une petite pensée pour Uwe Seeler quand même.
Ouais, qui a disparu.
Qui a disparu il y a quelques semaines. Je pense qu'on va le fêter évidemment en hommage demain en levée de rideau et pendant tout ce week-end en Bundesliga, ce qui fait qu'on a fait un hommage pendant la Coupe d'Allemagne, pendant la Super Coupe, pendant les matchs de deuxième division et pendant la Bundesliga.
20h30 demain.
Oui, normalement c'est toujours 20h30 le match du samedi.
C'est ça. Merci Polo, merci Walid. Merci, demain, on sera là à 20h avec le retour de la Ligue 1. Donc ouais, demain, Ligue 1, Première Ligue, Bundesliga, on va se régaler. Ça y est, c'est reparti.
Le foot est de retour.
Le foot est vrai. De retour. Voilà, c'est le mois d'août, c'est génial. Allez, à demain dans l'After. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.
Gilbert Brisbois.